19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
C'est un homme qui a l'habitude de partir en montagne, c'est un chasseur, donc apte effectivement à vivre et à survivre dans un milieu hostile.
Toujours aucune trace du fugitif soupçonné d'avoir abattu deux hommes dans les Cévennes. Et comme l'explique le procureur ce soir, le meurtrier présumé connaît très bien le terrain.
Alors il y a ceux qui sont partis en week-end loin de Paris et ceux qui ont choisi de rester pour se faire vacciner. Ils ne sont pas tout seuls, le vaccinodrome de la Porte de Versailles ne désemplit pas.
C'est encore un tabou en France, une femme sur 10 a connu une fausse couche. Des femmes se mobilisent pour que ce drame soit mieux pris en compte.
Tesla dit finalement non au Bitcoin. Son PDG Elon Musk affirme que son groupe n'acceptera plus la crypto-monnaie comme moyen. On vous dira pourquoi.
Le football avec la demi-finale de la Coupe de France, Rumilly Valière contre Monaco, le petit club amateur rêve d'exploit.
Anissa Dadi pour la météo. Anissa, toujours pas mal d'averses demain.
Oui, en tout cas en début de journée. Hein, l'ambiance est encore assez humide avec des averses sur les trois quarts du pays. Mais dans l'après-midi, petite éclaircie, ça se calme. Mais les températures, elles, restent toujours bien fraîches pour la saison. Plus de détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les recherches se poursuivent donc dans les Cévennes pour retrouver la trace de Valentin. Près de 350 policiers et gendarmes le traquent depuis bientôt 3 jours dans une zone boisée d'une quinzaine de kilomètres carrés environ. Stéphane Frangy, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Le procureur parle d'un homme qui connaît très bien le terrain et on en sait d'ailleurs encore un peu plus sur son profil.
Oui, le profil d'un solitaire passionné d'armes et notamment de tirs de précision. Lui qui rêvait d'être sniper, il possédait chez lui par exemple des sacs de sable comme ceux des militaires qui sont amenés à installer des camps de fortune à l'épreuve des balles. Eh bien, il n'est pas exclu qu'il se soit ainsi aménagé une base retranchée quelque part dans les bois. Le procureur de Nîmes, Éric Morel, est convaincu de faire face à un homme parfaitement entraîné à ce qui est en train de se passer.
C'est un homme apte à la survie en milieu hostile. C'est-à-dire que c'est un homme qui a l'habitude de partir en montagne, c'est un chasseur, donc apte effectivement à vivre et à survivre dans un milieu hostile, mais en même temps c'est pas un adepte, en tout cas en l'état des investigations, de l'idéologie survivaliste, pas plus qu'un paramilitaire comme c'était évoqué par l'un d'entre vous.
Voilà, mais son profil de solitaire aide en quelque sorte les recherches puisqu'il est présenté comme une personne sans le moindre ami, qui ne passe ni ne reçoit que finalement très peu d'appels téléphoniques. Difficile d'imaginer ainsi qu'un complice ait pu l'extraire de la zone de recherche de 15 km² qui est actuellement sondée.
Stéphane Frangy, merci, en direct du Gard où les recherches donc se poursuivent pour retrouver ce fugitif.
En Gironde, un chauffard de 34 ans écope de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Il avait tué un couple de motards au volant de sa voiture alors qu'il était ivre, sous cocaïne et roulait à 180 km/h sur une route départementale.
Pas de répit dans la campagne de vaccination. Le joli mois de mai, ses ponts et ses jours fériés ne doivent pas ralentir le rythme des injections. C'est en tout cas l'objectif du gouvernement. Message reçu 5 sur 5 à Paris.
Eh bien oui, parce que les Parisiens qui ne sont pas partis prendre l'air à l'occasion de ce week-end de l'Ascension en ont profité pour se faire vacciner. Le vaccinodrome de la Porte de Versailles était loin d'être désert cet après-midi et chose étonnante, Romain Houg, il y avait beaucoup de jeunes parmi les candidats.
Oui, et même des très jeunes hein, dans la file d'attente, moins de 20 ans pour certains. C'est le cas de Simon, 19 ans, tout juste vacciné. Il est sorti du centre tout sourire tout à l'heure et pour cause, il a dès hier soir réussi à réserver son créneau en ligne.
Je pense que c'est important de le faire pour tout le monde, pour moi aussi, pour ma famille, pour mes proches. Et puis comme ça, cet été, j'ai prévu de partir aussi avec mes amis. Donc ça fait plaisir.
Partir cet été en montrant patte blanche, voilà la principale motivation de bon nombre d'entre eux, mais pas toujours facile d'obtenir un rendez-vous. Alors Romain, 20 ans, prend son mal en patience.
J'ai essayé de prendre rendez-vous, il n'y avait aucun centre disponible. Là on m'a dit oui, apparemment il y aurait des doses disponibles en fin de journée, donc bon... Je tente le tout pour le tout. Voilà, c'est plus vite on sera vacciné, mieux. Plus vite on sera sorti de l'affaire. Voilà pourquoi je suis là.
Lisa aussi patiente devant le centre en espérant bénéficier des doses restantes en fin de journée. Pour elle, c'est tout simplement un acte citoyen.
Pour moi, c'est la moindre des choses d'aller se faire vacciner et qu'on s'en sorte un peu parce qu'au bout d'un an et demi, on en a vraiment très marre, même en tant qu'étudiant. Il y a un moment, il faut faire le geste et voilà. Et si nous, on le fait pas, qui va le faire?
Voilà, il n'y a donc pas de doute. Les jeunes sont bel et bien au rendez-vous de la vaccination. Ici, Porte de Versailles.
Précision signée Romain Houg. Alors convaincre les Français de se faire vacciner, c'est une chose. Convaincre ceux qui ont droit de ne pas bouder AstraZeneca en est une autre. Et là, c'est loin d'être gagné.
1,5 million de doses attendent de trouver preneur chez les plus de 55 ans auxquels il est réservé, à tel point que de nombreux médecins généralistes se retrouvent avec des doses d'AstraZeneca sur les bras. Ils réclament ce soir un déploiement rapide des vaccins à ARN messager, ce qui a été annoncé pour le 24 mai en théorie.
Les femmes disent que c'est une douleur étouffée. Une sur 10 a connu une fausse couche.
Et pourtant, il est encore difficile d'en parler, d'être comprise. En Nouvelle-Zélande, les femmes viennent d'obtenir un congé de 3 jours après une fausse couche ou l'accouchement d'un bébé mort-né. En France aussi, des femmes se mobilisent pour que la société le prenne en compte, Virginie Riva.
Oui, car si aux États-Unis, Michelle Obama a évoqué sa fausse couche dans ses mémoires et après elle, Meghan Markle, dans une interview au New York Times, en France, le sujet reste encore largement tabou pour la majorité des femmes, car c'est un épisode très douloureux, dur à raconter, souvent passé sous silence face à ses employeurs. Mathilde Lemel a vécu 4 fausses couches en 2 ans avant d'avoir sa fille. Elle a depuis créé un compte Instagram, mais presque rien, pour libérer la parole.
Je pleurais tout le temps, matin, midi, soir, la nuit. J'ai demandé, ou la 3e, si je pouvais avoir un suivi psy. On m'en a jamais proposé en fait. Et quand on me l'a proposé, le psy que j'ai rencontré m'a dit que finalement, il s'occupait que des personnes dont la grossesse s'arrêtait après 22 semaines. Après, d'un point de vue de l'entourage, le discours est plutôt de dire c'est pas grave, il y en aura un autre, et du coup de minimiser. Et en fait, il reste aucune place pour vivre vraiment son deuil.
Besoin de prévention, disent aussi celles qui se mobilisent, car mieux préparer les femmes saurait peut-être aussi mieux le vivre. Du côté de l'accompagnement par l'assurance maladie, en France, il est possible de bénéficier d'un arrêt maladie, mais un congé spécifique comme en Nouvelle-Zélande n'est pas à l'étude. L'entourage d'Adrien Taquet, secrétaire d'État aux familles, a conscience qu'il faut lever le tabou, mais en même temps qu'il faut préserver l'intimité de celles qui ne voudraient pas en parler à leur employeur.
Merci Virginie Riva. On ne sait pas s'il faut parler de coup de théâtre, mais c'est un nouveau rebondissement dans la course régionale en PACA.
Sophie Cluzel ne présentera pas de liste de La République En Marche. Elle avait pourtant assuré qu'elle serait la candidate de la majorité présidentielle, mais elle retire sa candidature. La secrétaire d'État annonce qu'elle soutiendra désormais la liste emmenée par Renaud Muselier, le président sortant Les Républicains.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, une petite pause et dans quelques secondes, on vous parle du patron de Tesla, Elon Musk, qui dit non finalement au Bitcoin.
Et puis la demi-finale de la Coupe de France, Rumi Valière veut y croire.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on vous parle donc d'Elon Musk qui fait encore des siennes. Le PDG de Tesla ne veut plus de Bitcoin.
Et non, il l'a dit sur Twitter. Curieuse volte-face du fondateur de Tesla qui disait exactement l'inverse il y a encore un mois. Cette fois, Elon Musk est catégorique. Il sera impossible de payer sa Tesla en Bitcoin. Clément Le Saffre, expliquez-nous ce brusque changement de pied.
Bah, c'est une illumination. En quelque sorte, Elon Musk s'est soudainement rendu compte hier que le Bitcoin a un impact négatif sur l'environnement. De fait, le processus de création des bitcoins, qu'on appelle le minage et qui consiste à faire tourner des fermes de milliers d'ordinateurs 24 heures sur 24, est très énergivore. On estime que les transactions en bitcoin consomment autant d'électricité à l'année que des pays comme la Suède ou l'Argentine. Problème dans le problème, c'est une électricité produite principalement à partir du charbon, l'énergie fossile la plus polluante.
Mais Clément, on sait depuis plusieurs années que le bitcoin consomme beaucoup d'énergie.
Oui, il y a quand même, il faut le dire, une certaine hypocrisie chez le milliardaire américain. Pour rappel, il vantait depuis des mois les mérites des crypto-monnaies, jouant même de son influence pour faire grimper les cours à coups de tweets enflammés. Son entreprise Tesla avait même acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoin en février. Un investissement juteux dont Elon Musk a grandement bénéficié à titre personnel, avant donc d'ouvrir les yeux tardivement sur la réalité environnementale du bitcoin. Il n'abandonne pas pour autant complètement sa lubie. Elon Musk précise que Tesla conservera ses bitcoins au chaud en attendant que le minage ait plus recours aux énergies renouvelables.
Vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais, mon
Exactement.
Cher Clément Le
Saffre. Si ça peut faire bouger les lignes.
Du service Éco d'Europe, merci à vous.
De l'énergie, ils vont en avoir besoin, mais ils ont aussi beaucoup de courage à revendre. Les amateurs de Rumilly-Valière face à Monaco ce soir en demi-finale de la Coupe de France de football. Julien Froment, ce n'est pas parce qu'ils sont censés être les plus petits qu'ils ne doivent pas y croire, on est bien d'accord?
Oui, exactement. D'autant plus qu'ils sont portés par, ils ont été portés plutôt il y a quelques minutes par une foule assez incroyable, les joueurs de Rumilly. Une marée humaine, plusieurs centaines de supporters se sont amassés pour faire une haie d'honneur à gros renfort de klaxons, fumigènes et chants, bien sûr, en l'honneur du GFA Rumilly-Valière. Alors, pas tout à fait dans le respect des gestes barrières, mais qu'importe pour le milieu de terrain Alexis Peugeot, accoudé à la fenêtre du minicar, tout comme ses coéquipiers, il a savouré chaque seconde.
Ah, c'est exceptionnel, toute cette ferveur, tous les gens qui nous soutiennent. Ça peut que nous pousser à faire encore un plus gros match et se battre pour eux et pour toute cette belle région qui nous soutient pleinement.
On arrive à se concentrer là, avec tout ça? C'est quoi, ça vous galvanise plutôt ça?
Oui, on est dans notre match, bien sûr, mais on profite aussi parce que voilà, ça reste exceptionnel. Mais on sera là sur le terrain à l'heure.
Et il a raison d'en profiter car c'est un moment rare pour ce club créé en 2018 d'une fusion entre Rumilly et Valière. Et puis aussi en profiter puisqu'hélas, le match se disputera au Parc des Sports d'Annecy ce soir à huis clos. Pas les conditions idéales pour un club du National 2, l'équivalent de la 4e division, mais ils savent désormais qu'ils pourront compter sur le soutien de toute une ville et de toute une région et bien pour tenter de réaliser l'exploit ce soir face à Monaco.
Et donc votre pronostic, Julien Froment ?
Que le meilleur gagne.
Vous en sortez bien, comme toujours.
Ouais, exactement.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Il tombe sur ses pattes comme un chat. Rumi-Yval hier, Monaco, coup d'envoi à 21h15, bien sûr. Match à huis clos, hein, Julien le disait, mais ce sera à suivre, bien sûr, à la radio sur Europe 1, en fil rouge. Et puis une dernière chose, Julien, la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea. Et voilà, elle aura lieu à Porto le 29 mai, avec du public dans le stade. La jauge est fixée à 12 000 spectateurs.
Bon, si vous avez des places, hein, vous nous faites signe, Christophe Lamar. Merci. C'était le journal de Christophe Lamar. On vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h. La météo avec Anissa Dadi. Et la semaine se termine un petit peu comme elle avait commencé, quand même, avec un ciel menaçant.
Oui, c'est vrai que ce ciel gris, on l'a au-dessus de la tête depuis un petit moment maintenant. Ça commence à être long. Et bien, demain, nous aurons encore des nuages très présents et des averses sur les trois quarts du pays le matin. Au fil des heures, bonne nouvelle. Si vous nous écoutez en ce long week-end de l'Ascension, si vous êtes au bord des côtes de la Manche, le long de l'Atlantique ou au bord de la Méditerranée, eh bien là, vous aurez droit demain après-midi à de belles éclaircies. Profitez-en partout ailleurs. Eh bien, nous avons encore sur toutes les autres régions un ciel qui alterne entre nuages, averses et éclaircies. Dans le Grand Est et dans les Alpes, attention, demain après-midi, les orages éclatent. Côté température, on est en dessous des normales de saison avec 4 à 12 degrés demain matin et 12 à 22 degrés au meilleur de la journée. 12 la minimale pour Aurillac, 18 à Paris et 22 à Perpignan, Nîmes et Marseille.
Bien, merci beaucoup Anissa. On vous retrouve également demain avec des bonnes nouvelles, j'espère,
croise
à partir de 18h.